Alors, je vais vous parler aujourd'hui donc des insectes sociaux. C'est un sujet sur lequel je travaille depuis 1995, donc ça commence à dater. Il y a plein de choses passionnantes à raconter, mais pour aujourd'hui, il a fallu que je fasse des choix. Déjà, les insectes sociaux, ce sont des isoptères ou ce sont des hyménoptères. Si ces termes ne vous parlent pas beaucoup, à ce moment-là, je peux vous parler de termites. Toutes les espèces de termites sont des insectes sociaux, qui sont relativement discrets, et quand on commence à voir leur impact, les dégâts, souvent, c'est un petit peu tard. Et puis, vous avez donc les hyménoptères, qu'on connaît mieux sous le nom de fourmis. Ça va être certaines espèces d'abeilles, certaines espèces de guêpes, le bourdon, par exemple, le frelon asiatique, le frelon européen, sont des insectes sociaux. Ce fait que ce soit des insectes les rend petits et discrets, mais cette vie en société fait que, du coup, on les sent beaucoup plus visibles et moins discrets et qu'on voit davantage les conséquences de leurs activités. Les fourmis et les termites, les abeilles, sont quasiment partout. Ils sont cosmopolites. Si on fait un focus sur les fourmis, on va les trouver, par exemple, dans presque tous les habitats terrestres, de l'Arctique au tropique. Certains pourraient dire « oui, mais l'Arctique, il fait froid tout le temps ». Effectivement, si la température est en dessous de zéro tout le temps, elles ne sont pas là. Mais il y a des endroits où la température fait bon vivre à l'Arctique, c'est dans les habitations. Donc dans les villes ou quand vous avez des maisons, eh bien là, vous allez pouvoir trouver des fourmis. Du niveau de la mer à la canopée, des milieux secs, des milieux aussi très humides. Par exemple, ici, vous êtes sur les bords de Loire. Vous avez cette gravière, et dans cette gravière, vous allez trouver par exemple des fourmis, des cardiocondylas, qui vivent là et qui ont fait un nid qui va être complètement hermétique. Quand le niveau de l'eau va commencer à monter, elles vont rentrer dans le nid et elles vont fermer. Ça veut dire aussi que toute la période hivernale, où le niveau de l'eau est très haut, elles ne vont pas être actives, elles vont être un petit peu une sorte de dormance, d'inactivité. Et puis c'est quand le niveau de l'eau va commencer à descendre qu'elles vont ouvrir le nid pour recommencer leurs activités. Elles ne se trompent pas. Vous vous doutez que si elles ouvrent le nid trop tôt, les conséquences vont être dramatiques pour la colonie. Et on ne sait pas encore exactement ce qu'elles utilisent, comment elles font pour rendre ce nid imperméable, alors qu'on est quand même dans une gravière, hein, donc un endroit avec beaucoup de cailloux et friable. Vous avez les fourmis du désert, par exemple, vous avez les Cataglyphis. C'est des fourmis très très rapides. Les plus rapides du monde sont les Cataglyphis. Et quand vous avez des nids, vous pouvez les repérer. Vous avez la forme de la construction à l'extérieur qui va vous aider déjà à savoir à peu près quelle espèce vous avez ou quel genre de fourmi va se retrouver là. Dans certains cas, il n'y a pas du tout de traces. Ça aussi, c'est un indicateur. Et puis la forêt tropicale, où là, les fourmis foisonnent. Vous en avez à tous les niveaux, sur toutes les strates, vous en avez dans le sol qui vont utiliser la racine des arbres, vous en avez dans la couche superficielle du sol, dans les branchages, le bois mort, vous en avez qui font leur nid dans une petite, l'équivalent d'une coque de noix, vous avez la colonie entière dedans, elles sont toutes petites, évidemment. Vous avez celles qui vont être vraiment dans la canopée. D'ailleurs, le radeau des cimes a permis de découvrir des nouvelles espèces en ne s'intéressant que c'est la cime des arbres, la canopée, tout ce qui se passe en haut. En fait, ils ont découvert qu'il y avait plein d'espèces qui ne descendaient jamais et qu'on ne connaissait pas. Alors, vous avez dans les habitats tropicaux, la biomasse des fourmis et des termites représente le tiers de la biomasse animale totale. Elles sont petites, mais elles sont tellement nombreuses et on les retrouve tellement à beaucoup de niveaux que finalement, en termes d'activité, ça va avoir un impact fort. Et si on se tient aux fourmis de la forêt amazonienne, leur poids sec est environ 4 fois supérieur à celui de tous les vertébrés terrestres. Ces insectes sociaux sont appelés comme tels parce que dans leur mode d'organisation, ils vont répondre à différentes caractéristiques. La première caractéristique importante, qui va être très structurante, c'est le fait d'avoir un nid commun. La termitière, la fourmilière, la ruche. Et dans ce nid commun, eh bien, elles vont notamment échanger, communiquer. Vous avez une odeur commune, ce qu'on appelle l'odeur coloniale entre les individus. Et vous voyez que sur la gauche, vous avez une termitière, les termites champignonistes. À l'extérieur, la température peut varier de façon très importante. On peut avoir des 45 degrés en plein soleil. La nuit, la température va complètement chuter, peut même parfois atteindre les 2-3 degrés. Il fait très froid. Dans la termitière, ça varie quasiment pas, 1 ou 2 degrés, pas plus. Et c'est lié à la façon dont les termites ont construit leur nid. Vous avez au milieu, c'est les fourmis des bois. Ça, on peut en trouver, hein, vous allez dans les Alpes ou en Italie. Plus votre fourmilière, elle va être grosse, et plus vous allez en avoir, et plus ça voudra dire que votre forêt, elle va bien et qu'elle est de bonne qualité. Ce que vous voyez, c'est un peu comme l'iceberg. Hein. Le haut de la ce qui est à l'extérieur, c'est beaucoup plus petit que tout ce qui est à l'intérieur ou au niveau du sol. Et l'activité des fourmilières, de la fourmi, en fait, pendant l'hiver, va s'arrêter. Et donc, il n'y a plus de fourmis dans la partie superficielle qui va être, elle, plus vulnérable aux fluctuations de température. Alors qu'en profondeur, elles vont rester au chaud et attendre que les conditions climatiques redeviennent favorables. Là, vous avez par exemple une photo gros plan en haut à droite de nid de guêpe où vous voyez ces différentes couches qui sont liées à différentes essences de bois qui ont été utilisées pour construire justement ce nid. C'est très léger, mais pourtant, l'eau ne pénétrera pas. Vous avez, elles construisent par-dessus un petit peu comme un chapeau qui va les protéger. Deuxième grande caractéristique, c'est la coopération pour les soins aux jeunes. Cette coopération va nécessiter que vous allez avoir plusieurs individus qui vont s'aider pour s'occuper des larves, pour s'occuper des œufs, pour s'occuper des nymphes, des cocons. C'est beaucoup de travail. Une larve, ça mange énormément, ça va beaucoup solliciter les ouvrières. Et donc, c'est le fait que vous allez avoir des individus qui vont s'occuper de descendants qui ne sont pas les leurs. Ça peut être des sœurs, ça peut être des demi-sœurs, mais qui vont mettre leurs efforts au service de l'élevage de ces jeunes. Parmi toutes les choses à faire, c'est si vous laissez des œufs dans un coin, bah, ils vont moisir, ils vont s'abîmer. Donc il faut les lécher, il faut les déplacer, il faut les aérer. C'est pareil pour les larves, qui en plus sont très consommatrices, notamment de protéines. Donc là, vous voyez par exemple des ouvrières qui sont sur un tas d'œufs. Hein, vous voyez, et les œufs, c'est la reine qui les a pondus. Ce sont des crématogastères. Et puis en bas à droite, là par contre, c'est une ouvrière qui est en train de nourrir des larves. Sur cette photo, ce que vous voyez, c'est une guêpe, une polystèse. Et si vous regardez bien, elle a des choses entre les mandibules devant. Vous voyez toutes ces petites fibres de bois qu'elle vient de récupérer là, sur la planche. Ces petites fibres de bois, elle va les mâchouiller et c'est ça qui va lui servir à construire son nid. Sur cette photo, vous avez une jeune fondatrice de polystèse et cette jeune fondatrice, eh bien, c'est elle qui fait tout au départ. Chez les guêpes, c'est un petit peu particulier. Donc là, elle va ramener ses petites feuilles et ça va lui permettre de commencer à construire son nid. Vous voyez déjà dans celui-là, il y a une petite dizaine d'alvéoles et de loges, pardon, et vous avez déjà des œufs. Je ne sais pas si vous arrivez à voir sur la photo, c'est un peu surexposé, mais on voit les quelques œufs. Donc au début, elle est toute seule, c'est elle qui fait tout. Et progressivement, quand vous allez avoir les premières émergentes, donc là, c'est une photo d'une autre espèce, celle d'avant, c'était aux États-Unis, là, on est au Mexique, vous voyez toutes les ouvrières qui sont là et qui restent. Il y a une seule reine qui pond ses œufs, mais les autres vont rester pour l'aider à élever les œufs et les larves pour faire d'autres ouvrières. Donc au début, la reine, elle fait tout, mais dès que les premières ouvrières arrêtent, elle va rester uniquement pour la reproduction et pondre les œufs. Voici des cellules où vous voyez les œufs, dans d'autres, vous voyez des larves de tailles différentes à chaque mue. Et puis dans la grosse cellule qui est au milieu, c'est une larve qui est en train de tisser, de fermer son cocon. Ça n'a pas pris longtemps, au bout d'une demi-heure. Elle avait tout bien operculé. Et vous avez en bas à droite, là, une cellule, en bas à gauche, pardon, qui, elle, est operculée. Donc qui va permettre la métamorphose complète des individus. Donc là, par exemple, ce qu'on faisait avec un collègue, c'est qu'on nourrissait nous-mêmes les larves avec... On savait exactement du coup ce qu'on leur donnait. Vous voyez là la structure du nid. On est capable de cartographier les cellules. On savait exactement comment on remettait le toit. Et puis quand on ouvrait, on savait l'histoire de chaque larve et exactement ce qu'on leur avait donné à manger. Et après, on pouvait regarder les conséquences sur des individus adultes. Donc on leur donne avec des petites micro-pipettes. Autre caractéristique, c'est la superposition de générations. Et oui, quand on est étudiant, je vois, il y a des jeunes qui sont dans la salle. On vous apprend en biologie Vous allez, les papas, la maman, ils font des enfants, et quand les enfants sont matures, eh bien, ils partent, ils prennent leur envol, j'ai envie de dire. Eh bien, là, ce n'est pas le cas. Vous allez avoir des individus, vos ouvrières, ce sont des individus adultes, mais ils ne partent pas, elles restent. Donc, vous avez une superposition des générations, et elles ne partiront jamais. Après, ce qui est sympa avec le monde des insectes sociaux, c'est qu'il y a toujours des exceptions. Donc, il ne faut pas prendre mon « jamais » au pied de la lettre. Et ne jamais prendre mes « jamais » au pied de la lettre. Superposition de génération adulte. Donc là, vous avez des ouvrières. Notez, entre parenthèses, qu'elles n'ont pas forcément toute la même taille. Et par contre, vous avez, à des moments donnés, la production d'individus sexués, d'individus qui ont des ailes. Ces individus qui ont des ailes, ce sont des futurs reproducteurs. Eux, effectivement, au moment de l'essaimage, ils vont partir pour aller former des nouvelles colonies. Sur ma photo, vous avez un futur mâle et une future reine. Est-ce que vous savez qui est qui? Il y a une façon très facile de les reconnaître. Vous avez une idée? Qu'est-ce qui, sur ces photos, qu'est-ce qui les caractérise? Oui, jeune homme. Ouais, les antennes. Il y a un petit garçon qui veut parler là-bas, oui? Alors, une fourmi, elle naît avec une taille fixe. Une fourmi ne grandit pas, ne change pas de taille. Quand dans une colonie, vous avez des individus de différentes tailles, ce n'est pas des jeunes et des petits, vous ne pouvez pas savoir ça à la taille. Les très jeunes, à l'émergence, elles vont avoir une cuticule plutôt claire, une cuticule qui va se rigidifier et prendre sa couleur définitive assez rapidement, mais elle ne changera pas dans sa taille. D'ailleurs, moi, je m'intéresse énormément à l'odeur coloniale et une jeune ouvrière, elle n'a quasiment pas d'odeur. Elle peut être facilement adoptée et c'est l'odeur qui va se transformer après, qui va se mettre en place un petit peu plus tard. Oui, jeune homme ? Oui, mais moi, en fait, là où j'attire votre attention, c'est effectivement les antennes du mâle, elles sont droites et c'est surtout, c'est lui qui a la petite tête. Mais c'est vrai, hein ? Vous verrez, hein, si vous voyez des fourmis, vous regardez la taille de la tête et vous saurez si c'est un mâle ou une femelle. Dans les colonies de fourmis, d'ailleurs, c'est des milieux très féminins. Les mâles, ils sont là au moment avec des ailes. Après, il faut qu'ils aillent s'aimer et on ne les revoit plus dans les colonies. Ils ne restent pas chez les fourmis, chez les abeilles non plus d'ailleurs. Hein, chez les abeilles, s'ils ne sont pas morts en se reproduisant ou s'ils ne sont pas morts pour une raison quelconque et qu'ils veulent rester l'hiver dans la ruche, ce n'est pas possible. Hein. Ils se font mettre dehors ou ils se font tuer. Et puis, grande caractéristique qui explique en grande partie aussi leur succès, c'est la division du travail. Division du travail au sens large. Dans une ruche, dans une colonie de fourmis, il y a énormément de choses à faire. Donc, on a déjà évoqué tout ce qui est soins au couvain. Ça, ce n'est pas anodin. Ça prend du temps. Et les larves, je peux vous dire que quand elles ont faim, elles réclament à manger. Et ça va pousser les ouvrières à sortir. Cette division des rôles, eh bien, c'est aussi dans le cas... Alors là, je vous ai pris l'exemple de l'abeille parce que c'est celui où on connaît le mieux. Chez les fourmis, on connaît un petit peu, mais c'est moins facile. Vous avez les maçonnes, vous avez les nettoyeuses, les gardiennes, les butineuses, les nourrices, les ventileuses. Et figurez-vous que cette division des rôles se fait, en fait, au fur et à mesure que les abeilles vieillissent. On a une division du travail qui est en fonction de l'âge des individus. Et en général, elles commencent avec les activités à l'intérieur de la ruche quand elles sont toutes jeunes. Et au fur et à mesure, finalement, hein, on s'écarte un petit peu du centre pour aller jusqu'à l'extérieur. Donc cette division des rôles, elle est aussi en parallèle liée à une modification de la physiologie des individus. Vous avez différentes glandes qui vont être importantes, mais qui au départ ne sont pas matures et dont la composition va changer au cours du temps. Par exemple... Si vous avez une petite abeille de un jour, elle ne vole pas, vous pouvez la prendre sur votre main, c'est même tout doux, hein, c'est tout duveteux. Elle ne vous piquera pas. L'aiguillon, il est tout mou. La glande à venin, elle n'est pas du tout développée. Vous ne risquez rien. Par contre, vous faites la même chose quand elle a 7-8 jours. Là, elle peut vous piquer et le venin, il est mature. Et les abeilles qui sortent, qui vont à l'extérieur, celles que vous voyez, les butineuses, ce sont les plus vieilles. C'est les plus vieilles quand tout va bien. Il peut, en cas d'accident dans l'environnement, s'il y a une forte demande, qu'il y a beaucoup de butineuses qui sont mortes et qu'il y a une forte pression sur la ruche, on peut avoir des butineuses précoces. pour vous dire que même si on a un calendrier très précis, finalement, déjà, les tâches ne sont pas exclusives. Ce qu'on présente, c'est là où elles vont passer la majorité de leur temps. Mais en plus, en cas de besoin particulier pour une des tâches, il va y avoir une flexibilité de la colonie pour s'adapter à ça. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et c'est ce qui fait qu'un apiculteur, des fois, il ne peut pas toujours savoir ce qui s'est passé au niveau de sa ruche. Il n'aura pas d'indicateur, il y a trop de monde et il y aura toujours de l'activité. Donc, quand il y en a plus, c'est que bah, du coup, c'est presque trop tard. Alors, en termes de nombre d'espèces, pour les fourmis, on est quasiment à 12 000 espèces. Et puis en France, on a 213 espèces de fourmis. Des espèces, ça veut dire des individus qui ont des couleurs différentes, qui ont des tailles différentes. Vous avez des colonies où les fourmis font à peine 1 ou 2 mm. Les petites Wasmania qui font très mal, les fourmis électriques, elles ne font même pas 2 mm. Vous avez des grosses ponérines, fourmis plutôt primitives. Vous en avez même une qu'on appelle la fourmi 24 heures, que vous trouvez en forêt tropicale. Si vous vous faites piquer, ça veut dire que vous êtes un peu affaibli, vous avez 24 heures pour arriver à l'hôpital. Vous avez des poils un petit peu partout qui vont donner la couleur. Vous en avez des fourmis jaunes, jaune soleil par exemple. Les termites, là aussi vous avez 2700 espèces environ. Bon, vous allez voir que ça me plaît un peu moins que les fourmis, preuve, c'est moins joli. Là, pour les différencier, on va avoir besoin des soldats. Et ça va être par rapport aux mandibules. Là, j'avais choisi cet exemple parce que si vous essayez, sur la base de ces images, qui pourtant vous montrent les soldats de genres complètement différents, bah, c'est vraiment pas facile. On fait quasiment pas la différence. Les guêpes, on a à peu près 15 000 espèces. Et des espèces sociales, on en a entre 700 et 1000. Alors parmi les guêpes, bah, c'est là qu'on va inclure le frelon. Vous avez aussi, vous reconnaissez peut-être la guêpe qui est sur la gauche, qui est une guêpe qu'on trouve aussi assez fréquemment. Et puis celle qui est en haut à gauche, vous voyez bien sa taille de guêpe, toute fine, pour les reconnaître. Les guêpes sont généralement peu agressives. Elles vont se défendre dans des conditions un petit peu particulières. C'est vrai qu'une guêpe peut vous piquer plusieurs fois, mais si elle n'a pas de raison de le faire, c'est rare. Il y a des accidents, mais sinon c'est rare. Vous savez, sur le nombre, on ne peut pas exclure de temps en temps qu'il y ait une guêpe folle. Malheureusement, on parlera beaucoup plus de la guêpe folle que des milliards d'autres guêpes qui n'ont jamais rien fait à personne. Frelon européen, frelon asiatique, mais ça, on verra si vous avez des questions sur ce sujet tout à l'heure. Je ne vais pas forcément m'étendre sur le frelon. Les abeilles, il y a 20 000 espèces d'abeilles dans le monde, dont 80% d'espèces solitaires et qui sont très mal connues. En termes de description, de biologie, on ne sait vraiment pas beaucoup de choses sur la plupart d'entre elles. Et en France, nous avons environ 1000 espèces. Alors les abeilles, bah, vous avez l'abeille charpentière, qui est assez grosse, hein, puis quand elle est là, elle vole, elle fait quand même pas mal de bruit. Les bourdons font partie, sont dans la classe des abeilles, hein, c'est aussi une espèce sociale. Souvent, en fait, la plupart des abeilles, solitaires et sociales, vont vivre au niveau du sol, vont faire des trous et la colonie va être à l'intérieur du sol. Mais pas que. Si elles trouvent d'autres endroits, elles vont aussi les utiliser. Le succès écologique. Vous avez souvent à voir des colonies qui vont avoir des tailles considérables en termes de nombre d'individus. Vous avez, par exemple, les fourmis nomades d'Afrique, les Dorylus, qui peuvent aller jusqu'à 20 millions d'individus. Inutile de vous dire qu'il faut les nourrir, et surtout leurs larves. Et ça, c'est des colonies qui ont la grosse particularité d'être nomades. Donc elles ont différents stades dans leur cycle, hein, dans l'année. Des stades où elles ne bougent pas, sédentaires, et après des moments où elles se déplacent. En fait, là où elles vont se déplacer, c'est quand elles vont surtout avoir très faim et besoin de ressources. Et là, il va falloir aller dans des endroits différents, parce que sinon elles auraient tout épuisé, il n'y aurait plus rien à manger. Et si vous avez l'occasion, du coup, sur le Radio Pulsar, l'Espace Mendès France propose maintenant une petite émission et je vous raconte une petite anecdote au sujet de ces fourmis-là dans cette émission. Voici à quoi ressemble un soldat de fourmis nomades. Il y en a, même quand vous les voyez marcher, ils ont du mal, la mandibule, elle traîne, il faut lever la tête. Vous avez déjà essayé de manger, vous, avec des grosses mandibules comme ça, quand le bras, il est trop petit? Elles ont beau ouvrir, elles n'y arrivent pas. Donc, il faut que les ouvrières les nourrissent. faut s'en occuper. Ce qui veut dire qu'il ne peut pas y en avoir trop. Mais ils sont importants parce qu'ils vont bien protéger la colonie. Donc, il faut quand même qu'il y en ait. Mais s'en occuper, les nourrir, c'est tout un travail. Donc, ces soldats sont importants, mais c'est ce qui fait, et c'est pareil pour les soldats de termites qu'il faut nourrir, et ben, vous avez un seuil qui va être dépendant de l'environnement dans lequel se trouve la colonie. Il y aura plus ou moins de soldats en fonction de la compétition et des dangers. Un autre exemple, au Japon, vous avez ce qu'on appelle une super colonie. En fait, c'est une colonie composée de plusieurs colonies. Mais c'est qu'il n'y a pas de différence d'agression entre les individus des différentes colonies. J'ai beaucoup travaillé sur la reconnaissance coloniale, qui est un petit peu un dogme, où c'est comme ça qu'on définit une colonie, c'est qu'elle attaque les individus, elle va défendre sa colonie contre ceux d'une autre colonie de la même espèce. Ici, il n'y a pas ce processus. Donc on parle de super colonie qui contiendrait 306 millions d'ouvrières et environ 1 million de reines. Ce n'est pas parce que c'est au Japon qu'ils les ont toutes comptées une par une. On a des processus qui permettent d'extrapoler et d'être assez précis sur les nombres. Une termitière peut contenir entre 100 à plusieurs millions d'individus. Ça va dépendre déjà de l'espèce, ça va dépendre de l'âge de la colonie. Et plusieurs millions d'individus, ça va être notamment les termites champignonis, c'est les photos que je vous ai montrées au début. Là, ce que vous voyez sur cette photo, c'est une reine physiogastre, justement, de termites champignonistes. Vous avez, chez les termites, contrairement aux fourmis, vous avez un couple royal, la reine et le roi, et ils sont fidèles toute leur vie. Le roi, il est là sur la photo. Est-ce que vous arrivez à le repérer? Déjà, la grosse masse que vous voyez, c'est la reine. C'est son abdomen. Et à chaque fois, c'est une machine à pondre. À chaque fois qu'il pond, elle pond, vous voyez les contractions. Elle est grosse, hein? Elle est comme ça. C'est une grosse madame. Et cet abdomen, il s'est développé. Vous voyez devant la tête et le thorax. Au départ, elle faisait la même taille que le mâle qui est, vous voyez, à droite, là. Vous avez un individu un peu plus gros que les autres. C'est le mâle. Et lui, il va la suivre, il va l'accompagner, il va rester avec elle. Et cette machine à pondre, voilà, peut faire plusieurs millions d'enfants. Chez les abeilles, une colonie peut comporter entre 40 et 80 000 individus. Pas toute l'année. Là, on est vraiment dans la période florissante de la colonie. Fin de printemps, début d'été, quand toutes les conditions sont réunies, on peut aller effectivement jusqu'à un très très grand nombre d'individus. L'impact des fourmis sur l'écosystème et l'environnement. On est sur un des prédateurs les plus importants des écosystèmes terrestres. La prédation annuelle de Formica polyctena, c'est environ 8 millions d'insectes. Chez les fourmis rousses des Alpes italiennes, la construction que je vous ai montrée, ces dômes qu'elles font en forêt, capturent en 200 jours d'activité 24 000 tonnes de nourriture, dont 14 500 tonnes d'insectes. Donc d'autres fourmis, ça peut être des potentiels ravageurs, donc elles vont avoir un rôle très important dans la régulation des autres espèces d'insectes qui sont dans leur environnement. Et puis les fourmis légionnaires, dont vous avez encore un soldat qui est sur la gauche, 1 million de fourrageuses collectent 50 000 insectes en un jour. Sur la photo là, qui est en haut à droite, vous avez une fourmi Odontomachus qui est en train de se faire attaquer par des petites fourmis, il me semble que c'était des Solenopsis. À mon avis, elle va pas résister. Les petites vont avoir raison d'elle parce qu'elles sont beaucoup plus nombreuses. Moi, cette fourmi Odontomachus, quand on voulait la récolter en Guyane, je la surnommais la fourmi bonbon popcorn. Parce qu'avec des mandibules comme ça, quand vous mettez la main... Alors, moi, je mettais des gants de cuisine, très pratique. Et du coup, les mandibules glissaient sur les gants. Et comme elles claquent, ça faisait des sauts partout. Donc, il y avait les fourmis qui sautaient. Si vous ne mettez pas les gants et qu'elles arrivent à vous couper, eh bien, là où elles vont couper, elles vont plier l'abdomen, vous enfoncer l'aiguillon et vous piquer. Et là, ça fait très, très mal. C'est l'équivalent d'une piqûre de guêpe, à peu près. Et c'est un des mouvements les plus rapides du règne animal. Le claquement de mandibules de ces fourmis Odontomachus. Sur la photo en bas à droite, là, c'était une étude, je crois que c'était dans les début 2000 que j'ai fait ça, où vous avez, en fait, la stratégie de crématogastères qui font que même si elles sont petites, À plusieurs, elles arrivent à attraper des proies de grande taille et selon la taille de la proie, les stratégies qu'elles vont utiliser, les séquences comportementales ne seront pas les mêmes. Et notamment, le nombre d'individus qui va être recruté va être différent en fonction de la taille de la proie. Donc vous voyez que c'est vraiment des individus qui vont être capables de s'adapter aux conditions environnementales. Ce n'est pas du tout l'animal-machine. Les fourmis aussi vont avoir des régimes alimentaires très divers. On va trouver des herbivores, des frugivores, des fongivores, des carnivores, omnivores, cannibales. Après, je pourrais vous raconter différentes anecdotes sur certaines d'entre elles, si vous voulez. Vous avez même, sur la photo, la deuxième photo à droite, de la kleptobiose. C'est ma fourmi Ectatoma, c'est la grosse ponérine, qui, alors ça se passe la nuit, ça se passe pas la journée, ça se passe en Guyane française. Eh bien, figurez-vous, quand elle passe sur sa branche pour rentrer dans sa colonie, vous avez les crématogastères qui sont là, qui l'attendent. Et là, elles sont en train de lui voler ce qu'elle a mis toute la journée à collecter sur des pucerons. Le mélias de pucerons, si vous savez comme c'est bon, elles en raffolent. Mais ces fourmis ectatoma, elles n'ont pas de jabot social. Donc, si elles avalent, c'est pour elles. Or, le principe, c'est que les fourrageuses sortent et après ramènent l'aliment pour celles qui ne sortent pas. En général, c'est les plus jeunes qui ne sortent pas, les larves. Et donc là, la seule façon de ramener, c'est de maintenir par capillarité entre les mandibules. Et là, du coup, ce ne sera pas pour ces ouvrières-là, ce sera pour les crématogastères qui vont des fois jusqu'à mettre même la tête entre les mandibules pour aller prendre jusqu'à la dernière goutte. Si l'ectatoma rencontre des crématogastères en plein jour et qu'elle n'a pas de miella, la crématogastère devient une proie. Donc c'est dangereux. Donc les relations sont différentes en fonction aussi du contexte entre les deux espèces. Ces fourmis peuvent aussi être nécrophages. 90% des cadavres de petits insectes qui meurent vont être amenés par les fourmis. Donc finalement, elles nettoient. Par exemple, vous avez une ruche, il y a des ouvrières qui meurent à l'entrée de la ruche. En 2-3 jours, les fourmis vont nettoyer le devant de la ruche. Donc ça va être aussi très important. Ça évite qu'il y ait des petits cadavres un petit peu partout. Donc, un rôle très important dans la régulation des populations de nombreux insectes, y compris des espèces envahissantes. Alors, il y a une fourmi que moi, j'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous avez déjà connu un petit peu des choses sur cette fourmi, c'est les écophiles. Écophiles, que l'on va trouver en Afrique, en Asie, en Australie. Ces écophiles, elles ont aussi un autre surnom, c'est les fourmis tisserandes, parce qu'elles vont tisser les feuilles des arbres entre elles. Et ces fourmis, elles ont un territoire qui va être l'arbre dans lequel elles vivent et les branches annexes connectées à cet arbre, et elles vont défendre cet arbre qui est leur territoire contre tout. Ce qui veut dire que votre arbre, quand vous allez vous promener, vous êtes en Afrique, vous avez soif, vous avez... Oh, qu'est-ce qu'elles sont belles, les mangues! Oh là là, j'en prendrais bien une! Ah ouais, vous allez essayer de l'attraper un peu plus, et la troisième fois, vous la frôlez, ça y est, je l'ai presque, la troisième fois, vous y allez, franchement, vous l'attrapez, et au dernier moment, vous allez retirer votre main. Si l'arbre est très beau avec des beaux fruits et que les autres tours ne le sont pas, c'est que vous avez des écophiles ou une autre espèce de fourmi. Il y en a d'autres dont je pourrais vous parler après. Et là, elles sont là et je peux vous dire qu'elles font mal. Elles mordent bien, elles ont de l'acide formique. On retire la main parce que ce n'est pas une ou deux. Elles alertent au niveau de l'arbre et vous avez un grand nombre d'individus qui va être là. D'où l'idée de les utiliser en lutte biologique. Vos fruits sont impeccables. C'est ce qui se fait. En Chine, ils ont essayé aussi vraiment de le mettre en place en installant des fourmilières. Ça n'a pas si bien marché que ça parce qu'il faut quand même qu'elles aient suffisamment à manger. Et donc, quand vous avez une densité de nids de fourmis trop importante, elles n'ont pas assez à manger. Donc, il faut quand même garder cette idée peut-être de partage ou peut-être de diminuer un petit peu les ressources. En tout cas, ça marche assez bien. Par contre, il y a d'autres fourmis qui font la même chose, mais là, même l'homme, il ne va plus chercher les fruits. Autant elles font mal, mais on peut gérer. Autant il y a d'autres espèces de fourmis, ce n'est pas une bonne idée du tout. Les tétramoriums notamment, on n'y touche pas. Regardez comme c'est joli. pour tisser les feuilles, pour rapprocher les feuilles les unes des autres. Elles vont faire des chaînes d'individus où elles s'accrochent. Alors, c'est des fourmis adaptées à la vie arboricole. Elles ont, on avait fait des photos en microscopie de leurs petites pelotes sous les pattes, et des griffes qui leur permettent vraiment de tenir. Vous ne la décrochez pas comme ça de son arbre, hein. Elle est bien accrochée. Et là, elles font des chaînes d'individus, puis après, des individus vont se retirer au fur et à mesure. Ça va permettre de rapprocher les feuilles. Une fois que les feuilles sont suffisamment proches, regardez ce qu'elle fait. Vous avez une ouvrière qui va aller chercher une larve. Et la larve, quand elle est au troisième, quatrième stade larvaire, c'est le moment où elle va commencer à construire le cocon autour d'elle pour faire sa métamorphose. Sauf que là, eh bien, sa soie ne va pas être utilisée pour faire le cocon, mais l'ouvrière va l'emmener de droite à gauche pour utiliser la soie pour tisser les feuilles entre elles. La larve, à un moment, va finir par s'épuiser. Bon, elles vont l'acheter. Elle ne pourra plus faire de métamorphose. Et après, eh ben, qu'est-ce qu'on fait ? On va en chercher une autre. Elle en a plein. Ça fait des grosses colonies, en fait, avec plusieurs nids. Voilà à quoi ça ressemble dans les arbres. Donc, quand la colonie est jeune, bah, il n'y en a qu'un seul. Et puis, il est très vert. Et au fur et à mesure, les feuilles, quand elles meurent, bah, ils peuvent en faire un autre. Et puis, après, vous pouvez en avoir plusieurs dans votre arbre. Alors, regardez comme elles sont jolies. Là, j'avais de la chance, c'était en Australie. Et d'habitude, elles sont vraiment en hauteur. Là, elle était plutôt à cette hauteur-là. Et elles commençaient à construire au niveau de feuilles un petit peu alvéolées. Et donc, ça fait comme si c'était un miroir avec la soie construite entre les deux. Fourmis au-dessus, fourmis en dessous. Et là, qu'est-ce qu'elles sont en train de faire, ces chippies ? Elles se font des bisous, alors les mineurs, là, avec la langue. Elles font une trophallaxie. Mais ça, c'est super important pour les fourmis. Alors, on pourrait dire, c'est alimentaire, elles échangent un peu à manger et tout. Oui, mais pas que. Elles échangent aussi en même temps des odeurs. Est-ce que t'es bien, ma copine, toi ? Et si c'est pas la bonne, ça va pas. Donc, pour ça, des fois, le contact antennaire suffit, hein, mais des fois, elles discutent un petit peu plus longtemps. Et elles sont tellement prises dans ce qu'elles font, occupées, que je les ai même pas gênées quand j'ai fait ma photo. Elles ont voulu terminer avant, hein, leur trophallaxie. Toujours sur ce rôle un peu de chaîne alimentaire, de rôle de régulation, les guêpes. Les guêpes vont avoir un rôle fondamental aussi, notamment, par exemple, pour réguler les chenilles, qui sont souvent des ravageurs. Hein, il est utilisé des pesticides pour tuer les chenilles qui font des dégâts. Bah, les guêpes, elles, font ce rôle, hein, elles vont les consommer, elles vont les ramener. Alors l'abeille, c'est le premier insecte utilisé comme pollinisateur en agriculture et c'est grâce aux abeilles qu'on a des rendements importants bien en pommes, en avocats. Tous ces fruits que vous voyez ont besoin de la pollinisation par les abeilles. Les légumes aussi, carottes, melons, pastèques, etc. Vous avez même des espèces qui vont être dépendantes à 100% des abeilles. C'est-à-dire que si vous n'avez pas d'abeilles, si vous n'avez pas de pollinisation, vous n'en avez pas. Notamment, par exemple, les amandes. C'est pour ça qu'en Californie, ils vont avoir plein de ruches qu'ils vont mettre au niveau de leurs amandiers. Mais les amandiers sont quand même très traités. Donc, ne consommez surtout pas hein, du miel d'amandier des États-Unis. D'ailleurs, si les abeilles survivent. Donc, il y a une perte de colonies qui va être très importante. Mais ces abeilles sont essentielles pour la pollinisation des amandiers. Alors, vous avez quelques rares espèces de plantes à fleurs qui n'ont pas besoin de la pollinisation par les insectes, mais ça doit être 2%, pas plus. Et puis, les abeilles produisent aussi donc, du miel, ressource intéressante. La pollinisation des végétaux sauvages et cultivés hein, est assurée à plus de 80% par des hyménoptères. Donc, certaines espèces de guêpes, les abeilles. Et 75% des cultures destinées à l'alimentation humaine dépendent des pollinisateurs. Sans eux, les chutes de rendement seraient considérables. Et ça, c'est une estimation qui a été faite en 2009 à 153 milliards d'euros. Hein, ça, ce serait le marché mondial, l'estimation monétaire du service rendu par les abeilles. Donc, s'il n'y a pas d'abeilles, voilà ce que ça va coûter en manque de production. Mais ça veut aussi dire que les étals seront beaucoup moins colorés ou alors que le prix des fruits et des légumes va augmenter parce qu'il y en aura de moins en moins et une demande, elle, par contre, qui est de plus en plus importante. Et ce chiffre, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas prises en considération dedans. Là, on est vraiment directement sur la production agricole. Donc là, vous voyez, vous la regarderez différemment maintenant. Eh bien, cette petite fourrageuse d'abeilles avec ses petites pelotes adhésives à l'arrière pour le pollen, eh bien, c'est une grand-mère, c'est une vieille, mais qui n'a jamais eu d'enfant et qui n'en aura jamais. La perte de biodiversité, c'est quelque chose de très important en termes de nombre d'espèces, aussi en termes de nombre d'individus. Il y a des chiffres assez alarmants qui touchent à la fois les vertébrés, en termes de densité de population, même d'espèces menacées, mais ça touche également les invertébrés. Vous avez par exemple 40% des espèces d'insectes en déclin ou menacées. À Porto Rico, en 35 ans, ils ont moins 90% d'insectes. En Allemagne, une étude qui est sortie il n'y a pas très longtemps, qui dit moins 75% sur une période d'une vingtaine d'années, et c'est une étude qui a été faite en zone protégée. Donc ces zones protégées où on peut penser que c'est un peu des réservoirs de biodiversité, eh bien même elles sont impactées par des diminutions de population d'insectes. Et en Angleterre, sur une période de 9 ans, ils ont moins 58% d'espèces de papillons. Alors c'est lié à quoi ? Ben, aux espèces exotiques envahissantes. Et parmi les 100 majeures espèces exotiques envahissantes, il y en a 5, ce sont des fourmis, et une, c'est la guêpe classique. L'augmentation de la charge en éléments nutritifs et la pollution, donc ça c'est les engrais et les pesticides principalement, le changement climatique, l'altération et la destruction de l'habitat et la surexploitation. Alors les engrais et les pesticides, pendant longtemps, c'était vu aussi comme quelque chose de positif parce que les insectes faisaient peur. On avait vraiment cette image dans beaucoup de films de science-fiction où les méchants, en fait, c'est juste des grosses têtes d'insectes. Quand nous, on les regarde sous la loupe, ça ressemble vraiment à ça, qui vont être mis en scène, et c'est ça qui fait peur. Donc, ça avait même une bonne image, parce que ça allait aider la ménagère, c'est les images aussi de ce moment-là, eh bien, à ne plus trouver ces insectes qui faisaient le ménage à sa place, si je peux me permettre, dans sa maison. Puisqu'ils nettoient. Hein. S'ils sont là, c'est qu'il y a à manger et des conditions favorables. Et ce n'est pas parce qu'un insecte il n'est pas tué par l'insecticide, qu'il n'est pas mort, qu'il va bien. Vous avez ce qu'on appelle les effets sublétaux. Donc vous avez des doses d'autorisation de mise sur le marché où on vous dit, au niveau dose létale, on est tout à fait dans les autorisations légales. Mais ce n'est pas parce que votre abeille elle est vivante qu'elle va effectuer sa fonction écologique, qu'elle va avoir ce rôle de pollinisation, et ramener du miel, être capable de rentrer à la ruche, avoir une vie, on va dire, normale pour une abeille. Et ça, c'est un sujet auquel je m'intéresse, notamment à tous les différents paramètres du trait d'histoire de vie, où avec l'INRA du Magnereau, on travaille ensemble donc, depuis un petit peu avant 2015, mais on a eu différents financements, dont un qui va commencer, un projet dans le cadre du programme Ecophyto, pour s'intéresser à l'effet d'exposition à des doses non létales, sur les larves, donc notre objectif c'est d'avoir un maximum d'individus qui vivent à des faibles doses et de regarder l'impact sur l'ensemble des traits d'histoire de vie des individus. Donc on fait du greffage des larves. La technique très développée à l'INRA du Magnereau, c'est l'élevage des larves in vitro. Donc on peut contrôler exactement les traits d'histoire de vie et les niveaux d'exposition qu'on a donnés aux larves d'abeilles. Quand les individus émergent, on les met dans des petites cagettes d'émergence où elles ont à manger tout de suite. Puis on va les marquer avec des puces RFID. Et puis, ainsi, on va pouvoir suivre l'ensemble de leur trait d'histoire de vie d'ouvrière adulte. L'âge de la première sortie, la durée de vie, est-ce qu'elles reviennent, combien de temps elles restent dehors, est-ce qu'elles ramènent quelque chose. Je voulais vous remercier à tous pour votre présence. Et puis, pour ce lancement de la Fête de la Science, ainsi que l'Espace Mendès France qui m'a invitée. Et puis, Vouneuil-sous-Biard pour l'accueil de cette journée de lancement. Merci de votre attention.